populaire. Trois sortes de personnes disent la vérité. Les sots, les enfants et les ivrognes. Alors, cette digne assemblée ne compte parmi ses membres aucune de ces catégories. Et pourtant, elle manifeste son attachement à la notion de vérité au point d'en avoir fait le sujet d'une réflexion de toute une journée. Et c'est donc un honneur pour moi d'y avoir été conviée. Il me revient donc de parler du rôle de la vérité en psychologie. Alors, la psychologie a pour objet d'étude le psychisme. Le psychisme, c'est l'ensemble, c'est compris comme étant l'ensemble de nos pensées, de nos sentiments, on dit aussi affect en psychologie, et de nos comportements, de nos actes. Alors, j'ai conscience que dans les milieux chrétiens, et peut-être particulièrement dans les milieux évangéliques, la psychologie, et peut-être encore plus la psychanalyse, suscite quelques méfiances. On pourrait dire qu'elles sentent le soufre. Et pourtant, il existe pour moi un point majeur sur lequel se rejoignent Bible et psychologie ou psychanalyse, peut-être plutôt, lequel ? On le trouve résumé dans Jérémie 17, verset 9, résumé d'ailleurs de manière lapidaire, « Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout ». Sur ce point précis, dont tant d'autres découlent, la psychanalyse, par exemple, va dans le même sens que la Bible en dévoilant nos pensées secrètes, nos désirs inavouables, nos motivations profondes, motivation d'ailleurs rarement aussi pure que ce que nous aimerions croire. Ceci est fort dérangeant dans la mesure où nous préférerions bien que ces coins sombres restent cachés et que nous aimerions bien pouvoir les ignorer. Pourtant, cette recherche de ce que nous sommes vraiment, c'est une démarche de vérité et comme telle, elle ne devrait pas nous laisser indifférents. Toutefois, même si cette compréhension psychologique de notre être intérieur se rapproche de ce que nous en apprend la Bible, elle s'en distingue radicalement sur deux points fondamentaux, me semble-t-il. Le premier, c'est que la Bible ne fait pas de l'être humain le centre de l'univers, mais la créature de Dieu. Et le second, la Bible n'en reste pas au seul constat du cœur tortueux. Elle est aussi porteuse de l'espérance du salut en Jésus, sans laquelle accepter la vérité de ce que nous sommes nous conduirait à la désespérance. Quant au terme, donc deuxième petite précision en introduction, sur le terme de vérité, nous venons de voir précédemment combien c'est une notion complexe. Dans le contexte qui est le nôtre, nous l'entendrons dans son sens classique, la vérité comme l'adéquation entre ce que nous pensons et la réalité. Alors, bien entendu, il existe une part de subjectivité dans notre appréhension de la réalité. Nous ne pouvons saisir toutes les facettes du réel. Nous n'en retenons que ce qu'en perçoivent nos sens. Notre histoire, notre caractère, nos modes défensifs aussi, joue également un rôle non négligeable dans notre rapport à la réalité. Néanmoins, nous nous en tiendrons à la définition de la vérité comme correspondance. C'est sur cette base, d'ailleurs, que l'on distingue la santé mentale de la pathologie psychique. Si je pense que vous êtes là aujourd'hui à m'écouter, pour réfléchir ensemble sur le rôle de la vérité en psychologie, on peut dire que je suis dans la vérité. Si je pense que je suis là devant une foule d'ennemis venus là pour se moquer de moi, je suis dans la maladie mentale, tout du moins j'espère. La maladie mentale, par exemple, la psychose se définit ainsi comme une perte de contact avec la réalité, une altération du sens de la réalité et de soi-même. Donc, ces préalables posés, je vous invite à entrer dans le vif du sujet que j'ai choisi de traiter sous les deux angles suivants. La vérité sur ce que nous sommes pour progresser vers la maturité. Dans cette première partie, je m'appuierai principalement sur les données théoriques de la psychologie du développement. Et ensuite, la vérité sur ce que nous vivons pour penser juste. Et cette deuxième partie s'appuiera davantage sur ma pratique de psychologue clinicienne en maison d'enfants et sur les réflexions qu'elle peut susciter. Alors, première partie, la vérité sur ce que nous sommes pour progresser vers la maturité. On pourrait définir l'immaturité psycho-affective comme un ensemble d'illusions. Alors, je ne fais pas référence aux illusions au sens d'hallucinations sensorielles, comme on en trouve dans certaines pathologies mentales. Non, je veux parler ici des illusions que nous nous faisons sur nous-mêmes. Ces illusions, elles nous sont communes à tous, dans la mesure où elles sont constitutives de notre développement. Elles s'enracineraient dans les débuts de la vie et nous les abandonnerions plus ou moins au fur et à mesure de notre croissance, sous la contrainte de la réalité. Si elles sont présentes et normales chez tout enfant, elles n'en demeurent pas moins donc un signe d'immaturité psychologique et sont destinées, comme toutes les illusions, à être progressivement abandonnées au profit d'une certaine lucidité qui nous permet de progresser vers la maturité. Donc, ces illusions, quelles sont-elles ? Je parlerai de l'illusion de toute puissance, de l'illusion de ne faire qu'un avec l'autre et de l'illusion d'être le centre du monde. Alors, d'où viendraient ces illusions ? L'être humain, et là encore psychologie et vision biblique se rejoignent, l'être humain est un être de relation. Et comme tel, il ne peut se construire que dans la relation à l'autre. À la naissance, le nouveau-né est entièrement dépendant d'autrui pour la satisfaction de ses besoins fondamentaux. Et cette dépendance absolue, à la fois matérielle et relationnelle, conditionne la survie. Et cette dépendance conditionne la survie, on ne la retrouve que dans l'espèce humaine. Et c'est de cet état de dépendance, absolue puis ensuite relative, que découleraient nos illusions de toute puissance, de ne faire qu'un avec l'autre et d'être le centre du monde. Alors l'illusion de toute puissance, d'omnipotence, c'est la grande illusion, hein, celle par qui le malheur arrive. L'état de dépendance absolue que nous venons d'évoquer et qui préside au début de la vie fait que le tout petit, quand tout se passe bien, voit ses besoins satisfaits sitôt ressentis. Il a faim et le sein ou le biberon arrive. Il a sommeil, il se retrouve dans son lit. Il a froid, une couverture arrive à point nommé. Sa mère, physiologiquement apte à décrypter ses signaux, comble ainsi ses besoins de nourriture, de chaleur et de sécurité. S'installerait dès lors dans l'esprit du tout petit l'illusion d'une toute-puissance où il lui suffirait de penser pour que la chose arrive. Mais au fur et à mesure qu'il grandit, il fait la douloureuse expérience de l'attente et de la frustration. L'épreuve de réalité lui apprend qu'il ne peut pas tout avoir tout de suite. Cette confrontation à la réalité est bien en effet une épreuve. On sait bien pour nous, on en fait aussi l'expérience quand on est adulte, ça n'est pas facile. S'entendre dire non, qui est-ce qui aime ça ? Disons la vérité, qui apprécie d'attendre, de renoncer à quelque chose ou, à plus forte raison, à quelqu'un qui lui tient à cœur ou qui l'espère ? Dans l'enfance, les exigences éducatives sont nombreuses et les frustrations à la fois inévitables et indispensables. La frustration est ainsi à la fois structurante et source de rage et d'angoisse. C'est pourquoi l'enfant, au fur et à mesure que son sentiment de toute-puissance se heurte à la réalité, compense son impuissance dans ses jeux. Le garçon, c'est le héros vainqueur de ses ennemis. Plus tard, il sera policier, pompier, j'ai même entendu sauveur. La fille, elle, elle sera princesse, elle sera star. En grandissant, elle va en rabattre un peu, elle sera maîtresse, infirmière. Mais vous constaterez en tous les cas que dans tous ces jeux d'enfants, il est question d'exercer un pouvoir sur l'autre et que dans ces jeux, l'enfant exerce son pouvoir de manière tyrannique et féroce. Freud disait à ce propos que l'enfer, ce serait un monde gouverné par les enfants de 4 ans. À cette illusion d'omnipotence, de toute puissance, correspond la pensée magique. La pensée magique, c'est s'attribuer la puissance de provoquer par la pensée l'accomplissement de nos désirs, soit de manière positive en réalisant nos vœux, soit de manière négative en nous punissant. Autrement dit, en pensant très fort à ce dont on a envie, on peut avoir ce qu'on désire. Et on peut influer le cours des choses au point d'obtenir ce que l'on désire. La pensée magique ne se retrouve pas d'ailleurs que chez l'enfant. Vous la retrouvez dans la superstition, par exemple. Donc ça, c'était la première illusion, l'illusion de toute puissance. La deuxième illusion, l'illusion de ne faire qu'un avec l'autre. La vie humaine commence par une fusion organique, celle de la grossesse, pendant laquelle l'enfant fait partie du corps de sa mère, et où les deux ne font vraiment qu'un. À la naissance, la coupure du cordon ombilical vient séparer physiquement la mère de l'enfant. Mais la séparation psychique, elle, est loin d'être aussi radicale. Elle ne va se faire que très progressivement. Et le nourrisson, en raison de l'expérience qu'il a de la vie intra-utérine, ne se perçoit pas comme encore différent de sa mère. Il la vit toujours comme faisant partie de lui, comme un prolongement de lui-même. Peu à peu, comme précédemment, avec l'expérience de la frustration, il prend conscience que sa mère et lui, ça ne fait pas une, mais ça fait deux personnes. Il prend conscience qu'il est vraiment, fondamentalement, radicalement, un être séparé, différencié, qu'il forme une personne à part entière. Vous pouvez observer d'ailleurs au quotidien cette différenciation qui s'opère, cette individuation, quand l'enfant en vient à employer le « je » pour parler de lui. Il ne le fait pas au début de la vie. Le tout petit, au début, s'autodésigne. Il s'autodésigne ou par son prénom, ou par les petits noms qu'on lui donne. Hein. Titi est gentil parce qu'il a rangé ses affaires. Titi, il a mal fait. Mais il ne dit pas encore « je ». Et petit à petit, en grandissant, il en vient à dire « je ». Et c'est à ce moment-là que l'on peut voir dans la réalité cette individuation qui est en train de s'opérer. Donc ça, c'était pour la deuxième illusion, celle de ne faire qu'un avec l'autre. Troisième illusion, l'illusion, car c'en est une, d'être le centre du monde. Elle est caractéristique de l'état infantile. C'est l'égocentrisme. On dirait plutôt en psychanalyse le narcissisme, encore que ce sont deux notions que l'on ne peut pas réduire l'une à l'autre. Il ne s'agit pas, dans ce contexte, de porter un jugement moral, mais en observant les réactions de l'enfant, de tous les enfants, de constater que c'est un stade normal du développement humain. L'enfant comprend en effet ce qui l'entoure à partir de lui-même. Et, par extension, tout le monde est censé partager sa manière de voir, son point de vue. La pensée égocentrique ignore ainsi la contradiction. Et le jeune enfant est dénué de la capacité de se mettre à la place de l'autre, d'imaginer ce que l'autre ressent, de le plaindre. Donc, nous avons vu l'illusion de toute puissance, l'illusion de ne faire qu'un avec l'autre et l'illusion d'être le centre du monde. Qu'advient-il de ces illusions au cours de notre développement ? Enfant, donc, on se plie aux exigences éducatives parce qu'on est faible, dépendant et parce qu'on craint de perdre l'amour de ses parents. On ne peut pas dire que l'enfant renonce réellement à ses illusions, je dirais plutôt qu'il les abandonne momentanément en attendant de devenir grand. Quand je serai grand, sous-entendu, je ferai ce que je veux. À l'adolescence, on assiste fréquemment à une flambée des illusions infantiles. Les conduites à risque en sont un exemple, du sentiment de toute-puissance qui habite les adolescents, associé à un ressenti d'immortalité. De même, à cet âge, les relations fusionnelles avec les pères sont courantes, banales. Et un certain égocentrisme fait le désespoir de l'entourage. On pourrait dire que l'ado se raccroche à ses illusions pour traverser cette crise identitaire qu'est l'adolescence avant de les abandonner progressivement quand il accède à l'âge adulte, quand tout se passe bien. À l'âge adulte, en effet, si les choses se déroulent normalement, les illusions infantiles vont petit à petit céder le pas à l'acceptation de ce que nous sommes, nous faisant accéder à la vérité sur nous-mêmes et donc à la maturité. En effet, la vérité sur nous-mêmes, c'est prendre progressivement conscience que nous ne sommes pas tout-puissants, que nous avons des limites. C'est accepter de nous voir tels que nous sommes pour de vrai. Ni des héros super-puissants, ni des héros complètement incompétents, mais des hommes et des femmes limités dans notre corps, dans notre pensée et dans notre affectivité. En tant que chrétiens, nous savons que ces limitations de créatures sont voulues par Dieu et que c'est bien ainsi. Si j'insiste sur ce point, c'est que ce désir mégalomaniaque peut se cacher sous des allures parfois fort pieuses. Et il me semble que nous avons à redoubler de vigilance à cet égard. C'est Dieu qui est tout-puissant, c'est pas nous. L'une des dérives très communes du chrétien est d'avoir tendance ainsi à faire sienne, à s'approprier la toute-puissance divine, fuyant ainsi ses limites et sa finitude. Prenons par exemple le rapport à la maladie. Que la maladie soit physique ou qu'elle soit psychique. Elle est liée à notre condition humaine et la guérison sur terre ne nous est pas due parce que nous sommes chrétiens. Si on admet ça relativement facilement en ce qui concerne la maladie physique, ça l'est beaucoup moins dans les cas de désordre psychologique. Être dépressif, par exemple, c'est avoir un problème spirituel. Car le chrétien se doit de vivre en permanence joyeux et en paix. La pensée magique n'est pas loin dans ce raisonnement, à mon sens, dans la mesure où cela revient à refuser ses limites de créature. Non, nos désirs, même légitimes, même pour le bien des autres, ne seront pas toujours satisfaits. Nous vivrons des échecs, nous n'aurons pas la réponse à toutes nos questions et nous ne serons pas pleinement guéris sur cette terre, sinon nous serions tout-puissants, semblables à Dieu. L'acceptation réfléchie et consentie de nos limites, l'acceptation de cette vérité sur nous-mêmes, est ainsi un garde-fou à une mégalomanie toujours galopante. C'est une vérité structurante, car elle nous rappelle à notre condition de créature. La vérité sur nous-mêmes, c'est aussi prendre progressivement conscience de l'existence d'un autre différent de soi. Nous ne sommes pas fusionnés à l'autre. L'autre qui est une personne à la fois semblable et différente de nous. Cette reconnaissance de la différence est aussi un garde-fou contre ce désir qui nous vient, on pourrait dire, du fond des âges, de cette nostalgie de la relation fusionnelle des premiers temps. Alors pourquoi un garde-fou ? Eh bien, tout simplement parce que la relation fusionnelle, c'est l'anti-relation par excellence, dans la mesure où elle ne reconnaît pas à l'autre une existence distincte de soi-même. L'autre n'est qu'un prolongement de soi, ce qui revient à nier son existence, à nier son altérité. Alors pourquoi j'insiste un peu sur ce point ? Parce que il me semble que dans la société où nous vivons, nous sommes souvent, il nous est souvent présenté la relation fusionnelle un peu comme un idéal à atteindre, une illusion que ce serait une relation parfaite. Et on le voit notamment dans les relations de couple. Il n'y a qu'à lire les magazines, écouter les émissions, ça revient très très fréquemment. Alors en effet, la relation amoureuse à ses débuts est une relation fusionnelle qui nous comble totalement. Comme au début de la vie, elle permet de connaître une félicité qui nous donne des ailes. Mais comme au début, il faut qu'elle se transforme. Car le bébé, s'il ne se défusionne pas de sa mère, n'accédera pas à l'autonomie physique ni psychique. De même, si un couple en reste à l'état de fusion amoureuse, il reste un bébé couple et n'accède pas à une relation mature qui lui permettra d'assumer la responsabilité de futurs enfants. D'ailleurs, les grands couples d'amoureux n'ont pas d'enfants et ne survivent pas à leur passion. C'est ce qui fait leur tragique célébrité. Imaginez un instant Roméo et Juliette se marier, ouvrir un compte au Crédit Agricole, faire leurs courses le samedi matin, pas de quoi en faire une pièce de théâtre. Cette reconnaissance de l'altérité ne nous est pas naturelle, même à l'âge adulte. Est-ce qu'il est facile d'accepter que l'autre ne pense pas comme soi-même ? Est-ce qu'il est facile d'accepter qu'il n'a pas les mêmes goûts que nous ? Que sa sensibilité nous est parfois étrangère ? Et dans nos églises, qu'il puisse vivre sa foi d'une autre manière que nous ? La question reste ouverte. Enfin, pour terminer cette première partie, la vérité sur nous-mêmes implique la reconnaissance de notre égocentrisme et la capacité de penser à l'autre avant de penser à soi. C'est l'altruisme, par opposition à l'égocentrisme, encore une fois normal chez l'enfant, mais signe d'immaturité. Penser notre égocentrisme, c'est un combat. Car faire passer le bien-être de l'autre avant le sien propre, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à vivre. Et l'égocentrisme, souvent chassé par la porte, revient souvent en douce par la fenêtre. Et il arrive même parfois qu'il se travestisse en pseudo-altruisme et nous leurre. Je pense ici notamment à l'exigence de transparence que nous pourrions avoir sous couvert de dire la vérité. Imaginez que je nourrisse des pensées négatives à l'encontre d'une sœur de mon église et qu'au nom de la vérité, j'aille la trouver à la fin du culte le dimanche matin pour les lui confier. Oh, tu sais, j'ai vraiment eu cette semaine des mauvaises pensées sur toi. J'ai pensé que tu ne faisais pas assez attention aux autres et que vraiment tu prends trop de place. Oh, si tu savais comme je me sens soulagée de t'avoir dit ça. Eh ben oui, moi je suis soulagée, mais ma sœur, elle, est-ce qu'elle est soulagée ? Est-ce qu'elle est soulagée ou chargée d'une confession, au nom de la vérité certes, mais d'une confession qui à la fois l'attriste et la met en colère ? La vérité dans ce cas-là n'est-elle pas plutôt un prétexte pour satisfaire mon égocentrisme ? Car ces pensées négatives encombraient ma conscience et devenaient trop lourdes à porter seule. Encore une question qui reste ouverte. Cette vérité sur nous-mêmes, cette acceptation de ce que nous sommes comme signe de maturité psychologique, est un idéal vers lequel nous tendons, mais qui n'est bien sûr jamais atteint. Nous ne sommes pas des saints, nous ne serons jamais des saints sur terre, et le croire, enfin, saint au sens catholique du terme, peut-être, et le croire serait une illusion de toute puissance. Non, cette maturité est un processus qui dure toute la vie, avec une alternance de mouvements de progression, de régression, d'état d'équilibre. Nos illusions infantiles sur nous-mêmes ont la vie dure et ne demandent qu'à ressurgir là où nous les attendrions le moins. Mais en tant que chrétiens, le fait de nous savoir acceptés et aimés par Dieu tels que nous sommes est un encouragement à rechercher la vérité sur nous-mêmes, non par nombrilisme, mais pour progresser encore et toujours. Voilà, ça c'était la première partie. Maintenant, j'aimerais parler avec vous dans une seconde partie du rôle structurant que peut jouer un discours de vérité sur l'aptitude à penser. Donc là, je m'appuierai sur ma pratique de psychologue en maison d'enfants. L'institution dans laquelle j'exerce relève de la protection de l'enfance. Elle accueille à temps complet, sur décision du juge des enfants et des jeunes qui ont vécu des maltraitances familiales graves, que ce soit physiques, sexuelles ou psychologiques. Ces enfants doivent être protégés de leurs parents, ceux qui demeurent profondément contraires à l'ordre des choses, ça demeure profondément choquant, c'est dire à quel point la vérité est interrogée en permanence dans ce contexte, et ce, de manière souvent douloureuse. Mon attention a été attirée dès le début sur les troubles d'apprentissage présentés par l'écrasante majorité de ces enfants et de ces jeunes placés, qui sont par ailleurs d'intelligence tout à fait normale. Leur pensée est confuse, l'accès à l'abstraction leur est quasi impossible, leur incapacité à apprendre est majeure. Certains même déploient une énergie incroyable à s'empêcher d'apprendre. Pourquoi ? Il n'y a bien entendu pas de cause unique à ce trouble. Certaines sont d'ordre biologique, d'autres relèvent de la psychologie. En revanche, certaines circonstances apparaissent favorables à déconfusionner. Alors, pardonnez-moi ce néologisme, mais à permettre à relancer les processus de pensée. Alors, je ne m'appuie pas, bien entendu, ici sur des constats uniquement personnels, mais je me réfère également à des études théorico-cliniques menées dans le domaine de la théorie systémique, notamment, ainsi que sur la longue expérience de thérapeutes spécialisés dans l'accompagnement de ces enfants et de ces jeunes. Mélanie a 11 ans. Elle vit la semaine dans un internat scolaire car ses troubles d'apprentissage sont massifs et elle pose des problèmes de comportement à la maison où vivent encore 4 frères et sœurs plus jeunes qu'elle. Quand elle a 12 ans, toute la fratrie est placée sur décision judiciaire au motif que le père, qui vit seul, est dépassé. Tous les enfants présentent d'importants troubles du comportement et des retards sévères dans les apprentissages. Il est dit, lors de l'audience, que le père n'arrive plus à les prendre en charge, qu'il est dépressif et qu'il s'alcoolise. Mélanie se présente comme une préadolescente au visage fermé, au regard fuyant, et elle manifeste beaucoup d'angoisse. Sa pensée confuse et son retard scolaire font songer un temps à une orientation en établissement spécialisé. L'hospitalisation en service pédopsychiatrique est même évoquée. Dans les mois qui suivent son placement, Mélanie va révéler l'existence de maltraitances physiques lourdes commises par son père et par sa mère à l'encontre des enfants, ainsi que des faits d'agression sexuelle de la part du grand frère sur ses sœurs. Les parents, mis au courant, n'ont pas voulu croire leur fille. Les abus physiques et sexuels se sont ainsi perpétués jusqu'au placement, perdurant même après lors des séjours en famille le week-end. Nous sommes là en présence d'une histoire malheureusement classique en maison d'enfants. J'ai choisi de vous parler ici de Mélanie, mais nombreux sont les enfants ou les jeunes qui vivent des situations similaires. Ce sur quoi j'aimerais insister, pour rester dans le cadre de notre sujet sur la vérité, c'est le lien qui peut être fait entre l'énoncé des motifs de placement et l'atteinte des processus de pensée. Qu'entend Mélanie des processus de placement énoncés par le juge lors de la première audience ? Qu'elle n'est pas sage, qu'elle ne travaille pas bien à l'école, que son père en souffre et qu'il est dépassé au point de tomber malade. Dépression et alcoolisme. Ce discours est d'ailleurs relayé par le père et la grand-mère paternelle, dont l'unique sujet de préoccupation tourne autour de la scolarité. Est-ce que tu as fait tes devoirs ? Quelle note tu as eue ? Attention, il faut bien travailler à l'école. Le discours implicite étant que si sa conduite et ses résultats s'améliorent, Mélanie pourra rentrer au domicile paternel. Alors là, Mélanie se retrouve aux prises avec une situation totalement paradoxale. Elle se doit de répondre à une double contrainte impossible à satisfaire par nature. Et là, je fais un détour par la théorie systémique pour vous donner la définition de la double contrainte, ou encore appelée double lien, qui représente le fait d'être acculé à un choix impossible entre deux termes qui s'opposent mutuellement. Quoi que l'on fasse, on a faux. Et se rajoute à ça que sortir de la situation s'avère impossible car il existe un lien de dépendance entre les personnes qui vivent cette situation. Donc Mélanie est au piège de deux contraintes qui s'opposent. La première, répondre aux attentes paternelles en ayant de bons résultats scolaires, auquel cas elle retournera au domicile où elle ne sera plus protégée, ou accepter d'être protégée, auquel cas elle n'a pas le choix, elle se doit d'échouer sur le plan scolaire. La troisième contrainte ici, qui vient renforcer le tout, est représentée par sa situation de dépendance affective à son père. Autant dire que la situation est inextricable, le système semble complètement verrouillé. C'est l'effort pour rendre l'autre fou, pour parodier le livre d'Harold Searles. Sombrer dans la folie est d'ailleurs l'une des issues inconsciemment choisies par certains, et dans le cas de Mélanie, nous avons vu qu'une hospitalisation en pédopsychiatrie avait effectivement été envisagée un temps. Si la santé mentale arrive malgré tout à se maintenir, la pensée est en revanche souvent durement touchée. Sidération, paralysie, confusion de la pensée, très grande difficulté, voire même incapacité à mobiliser les processus cognitifs. Comment en arrive-t-on là ? Face à ces situations familiales extrêmement douloureuses et complexes, la première réaction est souvent le déni et la banalisation. Et ce, même chez des travailleurs sociaux chevronnés. Car penser la maltraitance d'un parent nous révolte, et si on n'y prend pas garde, on dérive très vite dans l'aversion de culpabilité. Si les parents réagissent ainsi, c'est probablement que l'enfant ne l'avait pas volé. Et puis, chacun sait bien que les enfants, ça ment, et qu'il faut s'en méfier. Mais raisonner ainsi, c'est méconnaître gravement les mécanismes psychologiques à l'œuvre dans la maltraitance intrafamiliale, où sévissent la confusion des sexes et des générations, la violation des interdits familiaux et la répétition transgénérationnelle. Le vieil adage populaire cité dans l'Ancien Testament témoignait déjà de l'existence de cette répétition. Les pères ont mangé des raisins verts et les enfants en ont eu les dents agacées. Dans ces familles, l'enfant est vécu comme un objet destiné à la seule satisfaction narcissique ou sexuelle de ses parents, et s'il essaie de se sortir de ce système relationnel morbide, il est rejeté, voire même complètement abandonné. La stratégie d'évitement la plus répandue devant ces situations est donc le prudent retranchement derrière des faux-semblants, des non-dits, des demi-vérités qui touchent notamment les motifs de placement. Les actes maltraitants ne sont pas explicitement nommés. On va parler de carences éducatives, mot-valise s'il en est, ou encore des troubles scolaires et des troubles de conduite des enfants, inversant ainsi les effets et les causes. C'est parce que les enfants vivent de graves dysfonctionnements familiaux qu'ils montrent des troubles. Ça n'est pas l'inverse. Censé ménager la chèvre et le chou, ces discours familialement acceptables pour les adultes ont pour conséquence d'enfermer les enfants dans des injonctions paradoxales insolubles dont nous venons de voir à quel point les conséquences sur la pensée sont importantes. En effet, si les adultes en charge de la protection ne peuvent pas penser et tenir un discours de vérité sur le discours de ses enfants, sur le vécu de ses enfants, comment eux-mêmes pourraient-ils s'y autoriser ? Car le déni d'éprouver, le déni de ressentir, produit le déni de penser. Mais revenons à Mélanie. Pendant plusieurs années, nous avons pu l'accompagner et progressivement l'aider à dire ce qu'elle avait vécu en famille, ce qu'elle avait ressenti et ce qu'elle en avait compris. Le juge, de son côté, a précisé nettement pourquoi elle était placée. Une procédure pénale a été engagée contre les auteurs des sévices et les examens pendant l'instruction ont confirmé ses dires. Une thérapie spécifique a été engagée d'autre part. Et nous avons vu peu à peu la confusion psychique dans laquelle était plongée Mélanie cédait du terrain. Les processus de pensée se sont remis en route. Elle a fait montre d'une mémoire étonnante et d'une grande justesse de jugement. Ses résultats scolaires se sont améliorés, au point qu'elle a obtenu en juin dernier son brevet. Il est extraordinaire de voir l'action libératrice d'une parole de vérité sur un vécu, aussi douloureux soit-il. C'est une confirmation que ce qu'on ressent est vrai, qu'on n'est pas fou. Et on n'est plus seul, on est entendu, on est cru, et ça change tout. Peut-être vous étonnerez-vous du choix de ce thème assez particulier, j'en conviens, qui peut choquer pour parler du rôle de la vérité devant un public chrétien. J'ai fait ce choix parce que nos églises sont, je dirais malheureusement, elles aussi concernées par ce thème, ce dont j'ai pris conscience au fur et à mesure de ma pratique. D'une part, au cours des entretiens que je mène auprès de chrétiens adultes, je constate que ce thème revient relativement fréquemment et que la confusion et la culpabilité sont encore amplifiées quand le contexte est chrétien. Et cette semaine encore, au travail, mon avis a été sollicité dans le cas d'une mère qui met son fils en grave danger psychique et qui demande un droit de sortie le dimanche pour se rendre avec son fils à l'église évangélique. C'est vous dire, je vous laisse imaginer mon malaise dans ces situations. Veillons donc en tant qu'église à ne pas nous faire complices des faux-semblants et des demi-vérités, même au nom de l'amour et du pardon. Veillons à tenir un discours de vérité sur ce que nous pouvons observer afin de rompre les répétitions et de pouvoir enfin dire avec le prophète Jérémie « En ces jours-là, on ne dira plus « Les pères ont mangé des raisins verts et les enfants en ont eu les dents agacées. » Voilà, j'en ai terminé en résumé conclusif. Je retiendrai le rôle fondamental et structurant que joue la vérité en psychologie. D'une part, comme garde-fou à nos penchants mégalomaniaques, égocentriques et autruicides, et également comme déconfusionneur de la pensée. Car pour reprendre une phrase que j'ai entendue prononcer par Jacques Buchold, que certains probablement d'entre vous connaissent, on ne peut bien vivre que si l'on pense juste. Nous avons ainsi, comme chrétiens, l'exigence de parvenir à un discours de vérité sur nous-mêmes, sur notre vécu, sur ce qui nous entoure, dans le respect de l'autre et de nous-mêmes. Car la religion est peut-être l'opium du peuple, mais la foi, elle, sans conteste, est un sérum de vérité. Merci.
Donc vous avez dénoncé l'illusion de la fusion. Il y a quand même des sagesses, je pense notamment à la sagesse bouddhiste, qui insiste beaucoup sur cette notion de fusion. Alors est-ce qu'il faut y voir une forme de régression un stade infantile, ou est-ce que il y aurait une véritable sagesse dans ces philosophies un peu orientales?
Alors, je connais très peu le bouddhisme. En revanche, sur la construction de la personnalité, la diffusion est essentielle pour le développement et justement l'accès à la possibilité de penser. Mais ça, c'est donc le point de vue de la psychologie. C'est tout ce que je peux vous dire à ce sujet, mais c'est vrai que c'est une question sur laquelle qui mériterait d'être pensée. Mais en tous les cas, la relation fusionnelle n'est pas une vraie relation au sens du terme, puisque l'autre n'existe pas.
Avec la nature, et même dans toute sa philosophie, on a l'impression finalement qu'on passe d'un état de paradisiaque qui est celui de l'enfance et de la fusion à un état qui finalement est une déchéance progressive. Et je me demandais dans quelle mesure les psychanalystes ne s'empareraient pas justement de l'histoire de Rousseau, justement pour montrer qu'il n'a jamais surmonté l'étape de la séparation quelque part. Et ça se retrouve dans cette volonté de fusion avec la nature, ou même de fusion dans le corps politique pour les citoyens qui sont amenés à retrouver une forme d'unité qui était perdue depuis le péché, en fait, depuis la chute.
Pour avoir vraiment essayé de réfléchir à cette question de la fusion, et là je parle sous contrôle des théologiens qui sont là, n'hésitez pas à m'interrompre si j'ai une grosse bêtise. Mais il me semble que la seule dépendance absolue qui est structurante, c'est celle avec Dieu. Et que nous en avons comme des images sur Terre à la naissance avec la relation maternelle, qui est indispensable pour grandir, parce que sans cette fusion, l'enfant ne peut pas se construire. Mais, et on l'a aussi à l'état, au début d'une relation amoureuse, qui donne envie de continuer. Mais en tous les cas, dans notre réalité d'être humain sur Terre, si on en reste à cette fusion, on ne peut pas se développer, on ne peut pas continuer. Comme si on avait cet idéal qui nous est donné, que l'on vit imparfaitement sur Terre, mais qui nous donne peut-être envie, pour nous donner envie de rechercher justement l'absolue dépendance que seul Dieu... que seul Dieu, dans l'absolue dépendance avec Dieu, peut nous structurer, mais pas une autre. Enfin, je sais pas, c'est encore confus là pour le coup chez moi. C'est... Mais moi, je verrais ça plutôt sous l'aspect de la dépendance complète, totale. La fusion là dont on parle, c'est effectivement pour l'enfant la dépendance totale à l'autre. Un petit enfant sans l'autre, il ne peut pas survivre. Il lui est entièrement soumis. Donc c'est plutôt dans cette image là moi que je verrais la dépendance à Dieu. Mais cette dépendance à Dieu là est un facteur de croissance pour nous, alors qu'il ne l'est pas si c'est une dépendance à un être humain. Mais bon, ça vaut ce que ça vaut. Je regarde Lydia, là, parce que peut-être dis une grosse bêtise.
Je saisis la balle au bon. Mais je trouve que c'est très intéressant, cette réflexion, parce qu'on constate d'un côté... Dans beaucoup de nos églises, une sorte de vision fusionnelle, justement, de la relation avec Dieu. Alors que souvent dans la Bible, je pense en particulier à l'Ancien Testament, mais on le voit dans le Nouveau Testament, plutôt une affirmation de l'altérité entre Dieu et son peuple, d'une part, et le croyant. Dans l'Ancien Testament, Dieu est le souverain devant qui on se prosterne. On reconnaît sa majesté, le fait qu'il habite les cieux, même s'il est tout près de nous, et cette vision de l'altérité de Dieu, de la majesté de Dieu, n'est pas abolie dans le Nouveau Testament. Et c'est intéressant parce que finalement, c'est dans cette altérité qui est maintenue qu'on est construit en tant qu'individu, en tant qu'image de Dieu, mais qui reste image. Alors c'est intéressant parce que ça va plutôt dans le sens que cette déconfusion est nécessaire à tous les stades et que l'altérité de Dieu est justement nécessaire pour qu'on puisse vivre en tant qu'être humain.
Oui, je vous rejoins tout à fait. Je crois que dans toutes les religions, il y a un courant qui cherche la fusion avec le divin. On le trouve dans la grande tradition mystique du Moyen-Âge, hein, qui peut-être a encore des survivances aujourd'hui, dans ceux qui veulent vivre une sorte de fusion avec le Saint-Esprit. On trouve ce courant fusionnel dans le soufisme, dans l'islam. Et je pense que c'est aussi une manière d'illustrer par la transgression initiale, vous serez comme des dieux. L'idée au sein d'une religion d'être un avec la divinité est une idée diabolique, enfin d'origine externe en quelque sorte. Nous ne pouvons pas aspirer à la fusion et je crois que c'est l'altérité, Dieu, le tout autre qui vraiment structure notre foi en profondeur. Donc je crois qu'il y a là un danger effectivement.